Gérard Sévin, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes artiste et écrivain.
Je suis artiste et écrivain, oui, artiste peintre, sculpteur, et depuis quelques années, je suis devenu écrivain.
Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture ?
Comment pourrais-je dire ? D'abord, l'amour de la littérature, l'amour des mots, et puis le hasard qui fait que... j'ai hérité des cris de mon grand-père, et je me suis trouvé avec quelques documents. Et ces documents étaient vraiment importants pour moi, je pense pour la société. Donc je me suis fait un devoir de le retranscrire et d'écrire le livre en fait que mon grand-père n'avait pas pu réaliser.
Votre démarche par rapport à celle d'un historien ?
Écoutez, oui, j'ai voulu en faire un roman parce que justement, je ne suis pas historien. Je n'ai pas les références, je n'ai pas fait des études en histoire, donc je ne peux pas non plus... je ne peux que retranscrire ce que mon grand-père a vécu, et c'est ce que j'ai fait. Je ne peux pas faire autre chose.
Donc votre grand-père a vécu, on va dire, la guerre 39-45 dans une situation un peu particulière. Votre livre s'appelle « La baraque à l'épinette ». L'épinette, c'est un quartier de Salomine.
Oui, tout à fait. Donc l'épinette, c'est un lieu dit. L'épinette, ça peut être soit un buisson, soit un instrument de musique. Là, je ne peux pas vous dire d'où vient ce nom. La baraque à l'épinette, c'était une petite maison qui était donc dans ce fameux lieu-dit, et un lieu-dit mal famé pour certains, bien famé pour d'autres, suivant qu'on est ange ou démon. Et la baraque, en fait, pourquoi la baraque ? La baraque parce que à une certaine époque, après la guerre 14-18, tous les alentours de Lens et puis de la région étaient considérés comme terre lunaire. Ce qui fait que plus rien n'était debout, donc il a fallu reconstruire en vitesse. Reconstruire rapidement pour reloger les habitants. Donc la plupart du temps, on a fabriqué des logements provisoires, forcément en bois, qu'on appelait les baraquements. Donc de là, le terme « la baraque ». Et mon grand-père, d'ailleurs, a transformé le titre « la baraque ». Il ne l'a plus écrit « B-A-R-A-Q-U-E », mais « B-A-R-A-K ».
Donc dans votre livre, La baraque à l'épinette, donc qui présente cette histoire de votre grand-père, donc qui s'appelle Paul Vion, mmh. Il y a énormément de détails très précis qui sont dus aux archives, mais aussi aux documents de famille, aux documents des amis, et il y a beaucoup beaucoup de noms de façon explicite. Certains sont un peu cachés parce que la vie de ces personnes est un peu délicate, on va dire. Donc là, il y a une certaine précaution hein, par rapport aux familles, peut-être. Mais dans l'ensemble, tous ceux qui ont eu un comportement, je veux dire, convenable, entre guillemets, sont dans le livre. Hein,
absolument.
C'est ça ?
Absolument. Donc, oui. La base de mes documents, ce sont d'abord les lettres. Quand mon grand-père et ses camarades, puisqu'ils étaient une dizaine hein, environ, dont mon grand-père et ses camarades étaient en prison, ils ont suivi le même parcours carcéral, donc de Béthune, Douai, Fresnes, Fontevraud, jusqu'à Louvain. Dans ces prisons françaises et belges, ils avaient le droit d'échanger leur courrier avec leur famille. Donc mon grand-père échangeait des lettres avec ma mère et ma grand-mère. Ces lettres, forcément, ils les ont gardées, hein, soigneusement. Et donc, à la mort de ma grand-mère, j'ai récupéré toutes ces lettres. Donc, ces lettres, forcément, j'en ai une centaine, hein, environ. Aussi bien les lettres de mon grand-père que les réponses de ma grand-mère et de ma mère. Si vous voulez, je me trouvais avec du courrier comme ça, qui, écrit au jour le jour, ne reflétait pas vraiment, n'avait pas grande importance. Parce que, si vous voulez, au jour le jour, mon grand-père disait « Bon, aujourd'hui, tel jour, j'ai faim. Le lendemain, c'était encore la même chose, j'ai toujours faim. Hein. » Bon, donc il fallait que je retienne les petits mots-clés, les petites phrases intéressantes. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai relevé tout ce qui était intéressant. D'abord, c'était mon premier travail. Pour pouvoir essayer d'en tirer une histoire, hein, voir ce que je pourrais en faire. Et donc ensuite, si vous voulez, mon grand-père, quand il est entré en 1945, il était le seul à rentrer en 1945, les autres sont tous décédés là-bas, à Mauthausen. Il a commencé à écrire ses mémoires. Il n'a pas pu aller vraiment au bout de ce qu'il voulait faire, je pense, parce que d'abord... Je pense que sa famille voulait plutôt oublier les choses. Ma mère et mon grand-père voulaient rire, chanter. Et puis, mon oncle Jules lui disait « Arrête de ressasser tes histoires. Vis ta vie, vis notre vie. Allons, vivons, buvons, chantons. Et puis, oublions un peu ce que tu as vécu. » Donc je pense que, de ce fait-là, il n'a pas écrit tout ce qu'il aurait pu écrire.
Dans le livre, est-ce que c'est un artifice, mais on parle d'un enregistrement qui est fait sur un magnétophone où votre grand-père raconte, justement.
Là, ça fait partie du roman. Ça fait partie du roman dans le sens où ces textes, je ne pouvais pas les retranscrire comme ça, comme des documentaires. Donc il fallait que... Que je romance mon travail. Donc je me suis dit, je vais inventer quelque chose qui va me permettre de raconter son histoire ludiquement. Donc d'abord, je me suis dit, il faut que je trouve le moyen. Donc le moyen, ça a été de me dire, mon grand-père, va raconter son histoire à ses petits-enfants. Nous allions, ce qui est la vérité, pendant les grandes vacances, avec mon cousin Germain Marcel, qui avait un an de plus que moi, nous allions passer nos vacances chez mes grands-parents, à l'Épinette, où nous jouions dans la briqueterie derrière, dans le cimetière allemand, etc. Et nous passions avec eux d'homériques vacances, où lui, forcément, était très, très joyeux, très, très, très ludique. Il n'arrêtait pas de nous raconter des histoires, etc. Et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal d'imaginer qu'il nous raconte son histoire. Et le travail que j'ai fait, je me suis dit, c'est pas moi qui... Puisque j'ai 11 ans, je ne peux pas le faire. Hein? Donc je vais inventer un personnage qui est chargé de raconter son histoire, de faire sa biographie. Et ce que j'ai fait, faire sa biographie à ma place. Alors le personnage n'est pas inventé parce que en fait il s'agit d'un véritable camarade de mon grand-père qui était là à cette époque-là. Donc je lui ai affublé le rôle de raconteur, de chercheur, etc. Donc c'est ce personnage, Charlot. Donc, en fait, Charlot est chargé de faire le tour des archives. Hein, archives du Nord, archives du Pas-de-Calais, etc. Donc, c'est lui le chercheur, ce n'est plus moi. Et donc, forcément, à un moment, ce Charlot utilise un magnétophone pour enregistrer le grand-père qui raconte son histoire. Voilà.
En réalité, vous n'avez pas sa voix captée, enregistrée, gravée?
Pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, non, c'est une pure invention.
Alors également dans la forme du livre, on est beaucoup aussi dans le détail de la localité de Salomine, puisque le livre a pour trame un enterrement avec des arrêts réguliers où à chaque fois on revient dans l'histoire.
Oui. Alors donc en fait, comme vous dites, la trame principale, hein, ça se passe en 69. Mon grand-père est mort donc en octobre 69, et j'ai imaginé que l'histoire se raconterait pendant le parcours du convoi funéraire de la maison funéraire, donc au cimetière. Donc pendant ce parcours qui se faisait à cette époque en grande pompe, hein, parce qu'il y avait encore, on faisait encore un cortège derrière le corbillard. Et donc, il y avait plus d'une centaine de personnes qui suivaient ce corbillard. Et on a bien fait 3 à 4 kilomètres jusqu'au cimetière. Donc, j'ai imaginé que pendant ce parcours, il y aurait des flashbacks qui nous transporteraient, donc, 10 ans plus tôt, donc nous sommes en 69, donc en 59, donc 10 ans plus tôt, où j'avais 11 ans, et où, là, le grand-père, pendant l'été 1959, nous raconterait son histoire. Dans l'été 59, mon grand-père racontant son histoire perd un peu le fil du temps et lui-même fait des flashbacks et se reporte à l'époque en 43, en 44 et en 45. Et il raconte son histoire telle qu'il s'en souvient.
D'où l'idée des stations.
D'où l'idée des stations, voilà. Donc par exemple, en arrivant au passage à niveau, forcément, les barrières se baissent et un train passe. Et le train nous fait penser à un train qui l'emmènera plus tard vers une prison française, vers une prison ou vers le camp de concentration de Mauthausen.
Oui, donc effectivement, au travers de ce livre, votre grand-père a vécu des situations dramatiques. Et cette baraque QE, effectivement, dans son esprit, a été imaginée en termes de langage comme baraque avec un K, vu les camps de concentration dans lesquels il s'est retrouvé. Et donc, on va parler du camp où il a terminé la guerre, hein. Celui de Mauthausen. Donc, qu'est-ce qui a amené votre grand-père à être emmené dans ce camp de concentration?
Je pense que c'est son appartenance au Parti communiste. Les communistes, donc, le Parti communiste a été interdit en 1939, et donc mon grand-père a été arrêté pour reconstitution du Parti communiste. Dans chaque ville du Pas-de-Calais, a été réorganisé le Parti communiste. Donc mon grand-père à Salumine, ils ont été 32 à le réorganiser. Et forcément, parmi ces 32, il y a eu un dénonciateur. Et suite à ça, ils ont tous été arrêtés.
Je voudrais aussi revenir sur un personnage, c'est le commissaire de police de Salomine, donc le commissaire Moulin.
Fameux commissaire Moulin, oui.
Donc lui, il faisait des rapports à la hiérarchie et à la Gestapo. Hein.
Oui, forcément, puisqu'il était responsable de tout le secteur. Hein. Et donc lui, c'était vraiment un collabo de première, il voulait absolument... Et il avait une haine féroce, farouche, contre les communistes qu'il voulait éradiquer comme des bêtes nuisibles. Et donc, il a été le premier à les pourchasser. Et il a fait beaucoup de mal. Hein. D'abord, c'est lui qui est la cause des principales arrestations, même des grèves des mineurs de 1941. C'est lui qui a été l'instigateur. Hein.
Ouais. Ah, il faisait des rapports au préfet.
Oui, tout à fait.
Et il a informé notamment à un moment donné le préfet que ça devenait très compliqué et que la situation, par rapport aux gens qui manquaient de tout, etc., bien, elle devenait très favorable à la résistance.
Oui, bah oui, absolument, c'est vrai, c'est vrai.
Donc à un moment donné, ce commissaire fait un rapport en exprimant son désarroi, qu'il n'arrive plus à contrôler et à mettre l'opinion publique favorable aux Allemands, dans la mesure où l'opinion publique manquait de tout, quoi. Donc il sentait la situation lui échapper, à son grand désespoir.
À son grand désespoir, oui.
Donc c'est vrai que dans ce cadre-là, il avait du mal à atteindre ses objectifs, les objectifs fixés par la hiérarchie, par la préfecture, par l'État français, au nom de l'accord avec l'Allemagne.
Avec l'Allemagne, oui, tout à fait, oui, 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 oui. Oui.
Voilà, donc ce livre restitue bien l'ambiance de l'époque, vue par un militant communiste dans un système qui était donc cloisonné. Hein. On peut dire que le Parti communiste avait chargé des personnes de constituer des tout petits groupes pour justement échapper à la délation de façon massive.
Quelques dirigeants parisiens ont voulu reconstituer le Parti communiste et ont délégué quelques personnes qui étaient chargées dans différentes régions de réorganiser le Parti communiste. Donc de là, ces responsables, quelques-uns de ces responsables, les plus haut placés, ont choisi parmi leurs camarades les plus aptes à former des chefs de groupe. Et chaque chef de groupe était chargé à son tour de réunir au moins 2 à 3 personnes, ce qui formait des petits groupes de trois environ. Chaque groupe ne connaissait pas les autres groupes. Hein.
Donc votre livre montre bien l'état d'esprit de ces personnes, donc militants communistes, qui essayaient de trouver un moyen de faire capituler en quelque sorte les nazis qui occupaient l'espace français.
Bien sûr. Oui, donc en fait, les communistes, forcément, ont été les premiers à lutter contre l'occupant, notamment avec la grande grève organisée en 1941 par les mineurs du Nord et du Pas-de-Calais. Ça a été la plus grande grève organisée à cette époque-là. Et d'ailleurs, Hitler en a eu vent. Et c'est la seule grève qui a fait trembler l'Allemagne à cette époque-là.
Alors, donc là, on est en 41. Avant, on va dire entre 39 et 41, il y a eu un moment un peu de flottement parce qu'on était encore sous la période où l'influence, on va dire, stalinienne par rapport au Parti communiste était importante et où les accords qui ont été établis entre l'URSS et l'Allemagne ont créé une certaine forme d'incompréhension et aussi de mise en retrait de l'activité politique.
En fait, ce qui a le plus gêné les communistes et le monde, en fait, c'est aussi le pacte germano-soviétique, qui a troublé une grande majorité de communistes. Bien sûr, ils voyaient une trahison, d'autres pensant vraiment que Staline avait raison, que s'il signait ce pacte, il avait ses raisons et que ses raisons ne pouvaient être que bonnes, en fait.
Donc la rupture de ce pacte a été finalement une sorte de délivrance et un regain de motivation pour les militants.
Absolument. Donc ce pacte, la fin de ce pacte, donc a galvanisé les communistes et les troupes dans le sens où, même mon grand-père le dit, chez eux, ils sautaient de joie, bon, ils étaient très heureux forcément de cette opération.
Donc à partir de ce moment-là, les choses deviennent très, très fortes, actives, et les attentats des militants communistes se multiplient contre les symboles de l'occupation allemande.
L'histoire nous dira que ils n'étaient pas tous partants pour la guerre à outrance, pour tuer les Allemands. Ils n'étaient pas vraiment tous d'accord. Surtout les vieux. Les vieux pensaient que tuer un Allemand, forcément, les Allemands se vengeraient et tueraient des Français. Donc ça ne leur plaisait pas trop. Les jeunes, forcément, eux, voulaient combattre, et bon, à tout prix, et tuer du Boche, quoi. Hein, bon. Et ça a créé quelques conflits au sein même des troupes, enfin, au sein même du Parti communiste.
Donc, dans les personnes arrêtées, on va dire par la Gestapo et par aussi la police française. Ouais. On retrouve deux types de personnes, hein, des personnes qui ont été arrêtées suite à des actes de sabotage, etc. On retrouve aussi des gens qui ont lancé des grèves dans les mines, par exemple, de Lens, et qui, donc, à ce titre-là, ont été considérés comme saboteurs pour la production que l'Allemagne attendait.
Oui. Il y a eu deux choses. Donc, la grève. La grève, d'abord, c'est vrai que la grève a gêné forcément l'Allemagne, parce qu'elle voulait que notre région produise charbon pour sa propre consommation, quoi. Bon, par contre, donc, d'autres personnes ont été arrêtées pour l'effet de sabotage, mais disons, c'est pas vraiment lié, quoi. Bon, la grève des mineurs et les sabotages, à la limite, je dirais que ça n'a rien à voir. Les deux choses n'ont rien à voir. Les sabotages ont été faits par les jeunes, par certains jeunes, donc les OS, organisations spéciales, et puis aussi les Polonais, il y a beaucoup d'étrangers hein, chez nous. Hein.
Ces grandes grèves des mineurs, elles ont été aussi l'objet de réprimandes graves, avec des actions qui ont été menées contre eux, des mises en prison, et donc certains de ces mineurs se sont retrouvés dans des lieux de rétention, qui existent peut-être encore sous forme de prison. D'ailleurs, maintenant, on est étonné de retrouver des noms et des choses très détaillées. Il y a vraiment dans votre livre une infinité de détails, ce qui rend aussi très crédible, hein.
Oui. Donc en fait, je vous avais dit qu'il y avait à peu près 500 hommes et femmes qui avaient été arrêtés. Hein. Donc la plupart des femmes ont été libérées assez vite. Ils en ont gardé quelques les hommes principalement. Le but en fait, c'était de faire peur à la population. Et mettre un peu la panique dans les corons, parce que dans les corons, forcément, c'était la pleine effervescence. Et donc, ce qu'il fallait, c'est faire peur aux femmes aussi, aux hommes qui étaient là, qui n'avaient pas été arrêtés. Donc, on arrêtait en masse, ils ont arrêté en masse. Je dois dire aussi que ce ne sont pas les Allemands qui, au départ, ont arrêté les mineurs, ce sont principalement la police française, notamment le fameux commissaire Houlin et ses sbires à Sallemines, qui étaient à la base de la plupart des arrestations. Donc donc forcément, ils ont été remis aux Allemands. Les Allemands, d'abord, les ont emmenés en Belgique, à Huy, etc. Donc là, à Huy, certains se sont évadés, certains ont pu s'évader, d'autres y sont restés, on ne sait pas pourquoi. Et une majorité, je crois que 170 environ, sont partis en camp de concentration à Sachsenhausen.
quand on lit votre livre, votre grand-père qui est sorti donc du camp de Mauthausen, là, il a vraiment eu beaucoup de chance. Hein, et on voit que les personnes arrêtées sont déplacées d'un camp à l'autre, divisées. C'est très compliqué, cette histoire, en quelques années. Il y a eu beaucoup de changements dans les groupes qui ont été formés, déconstruits, et certains se sont retrouvés dans des endroits en Allemagne, d'autres ailleurs.
Absolument. Je pense que tout dépendait de la politique allemande à l'époque où se passaient les faits. Donc mon grand-père était en 41, donc en 41, donc en novembre, donc la grève des mineurs était passée depuis 3 mois. Eux ont été arrêtés, non pour la grève, bien que mon grand-père était responsable aussi, était l'un des responsables de la manifestation des grèves de 41, lui n'a pas été arrêté. Mais il l'a été par la suite, donc en novembre. Il a été arrêté pour reconstitution du Parti communiste, ce qui n'a rien à voir avec la grève des mineurs. Eux, ils ont été arrêtés, donc prends l'exemple de Salomine, forcément, puisque mon grand-père faisait partie de Salomine. Ils ont été arrêtés à 32. Sur les 32, 10 sont restés, ont été enfermés, ont été emmenés en prison le 20 novembre 1941, à Béthune. Et sur les 10, ils ont tous été condamnés aux travaux forcés. Les 10 ont suivi à peu près le même parcours dans les prisons françaises et belges, jusqu'à la prison belge de Louvain, où là, fait extraordinaire, mon grand-père, lui, donc en octobre 1942, n'a pas été envoyé en Allemagne. Tous ses camarades, ses 9 camarades, sont partis au camp de concentration à Mauthausen. Ils sont tous décédés assez rapidement. Mon grand-père, lui, par contre, n'y est allé que 4 mois plus tard. C'est ce qui l'a sauvé, certainement. Puisque lui a réussi à s'en sortir. Et donc, il est rentré en 1945.
Donc, votre grand-père, un jour, arrive à Mauthausen, c'est au bord du Danube, donc c'est l'Autriche allemande, on va dire.
Hein. Oui, l'Autriche, oui, tout à fait, oui, il est arrivé en avril 42, en avril 43, excusez-moi. Là aussi, il a suivi un chemin un peu extraordinaire, en fait, il s'est retrouvé de Louvain en Belgique, d'où ses camarades étaient partis en octobre 1942 pour Mauthausen. Lui, il est parti donc en avril. Hein. Et il est passé par donc la prison de Huy. Ensuite, il est passé par Saint-Gilles, Francfort-sur-le-Main, avant d'arriver à Mauthausen. Et donc, ils ont été regroupés à 22 communistes, dont certains du Pas-de-Calais. Donc, un groupe de 22. Ils étaient dans un train et donc avant d'arriver à Mauthausen, ils ont dû être attelés à un autre train qui venait de Romainville, près de Paris. Ce convoi comportait une centaine de résistants qui venaient du camp de Romainville, justement, des résistants, dont Jean Lafitte, Paul Tillard, etc., et qui faisaient partie des FFI. Ils se sont retrouvés à une centaine. Le soir, en arrivant à Mauthausen, ils se retrouvaient une centaine sur le quai, alors qu'ils étaient partis que 22, voilà.
Donc, la partie sur le camp de concentration de Mauthausen est très descriptive. Pourtant, vous n'y étiez pas. Comment vous avez réussi à restituer l'ambiance et aussi les actes dont vous témoignez dans ce livre ?
Alors là, mon grand-père a écrit donc la plupart de ce qui s'est passé à Mauthausen. Je me suis aidé aussi, par exemple, de certains livres. notamment de celui de Paul Tillard. Paul Tillard était l'ami proche de mon grand-père en arrivant à Matozane. Paul Tillard a écrit un livre. Donc quand je parle de l'arrivée à Matozane, mon grand-père le suit, est juste son voisin. Donc il m'est facile d'expliquer à nouveau ce qui s'est passé. Mon grand-père le raconte, mais forcément avec quelques bribes, il n'est pas forcément explicatif dans tous ses détails. Donc j'ai rassemblé un peu tout ça, et puis j'en ai fait cette arrivée.
Quand on lit donc ce qui se passait, les abominations du camp de concentration de Mauthausen, on peut dire que ce qu'on retrouve là, c'est aussi ce qu'on peut retrouver par d'autres témoignages dans d'autres camps de concentration, un peu partout, en Allemagne, en Pologne, en Autriche. C'est aussi ce qu'ont vécu des Juifs, d'une certaine manière, peut-être plus largement en termes de nombre, largement. Donc on peut dire que le livre tel qu'il est là, donc qui retrace essentiellement le destin de personnes de la mouvance communiste de l'époque, recoupe complètement les témoignages des Juifs qui sont faits actuellement. Donc il y a un propos qui est réellement universel.
Oui, tout à fait. Bon, mais maintenant, je pense que pour les Juifs, je dirais que ça a été pire, dans le sens où c'était quand même pour eux l'extermination totale. Mon grand-père a quand même pu en sortir, et d'autres avec lui en sont sortis. Bon, donc, parce que malgré tout, le camp de Mauthausen, c'était pas vraiment un camp d'extermination. C'était un camp de travail où forcément, c'était aussi un camp de travail. Il fallait fournir, donc il fallait chercher des pierres dans la carrière pour les remonter, pour bâtir. C'était pas... au camp d'extermination, bien sûr, également, parce que forcément, les gens y mouraient tous les jours. Ceux qui ne pouvaient pas travailler, il y avait en fait camp de concentration, deux files. Il y avait la file de ceux qui pouvaient travailler et la file de ceux qui ne pouvaient pas travailler. Ceux qui ne pouvaient pas travailler, c'était le four crématoire. D'ailleurs, mon grand-père a failli, à la fin de son temps à Mauthausen, a failli et s'est retrouvé dans cette file. S'il n'avait pas eu la chance, une chance extraordinaire, il serait passé dans le four crématoire. Mais si vous voulez, c'était quand même l'extermination. Enfin, l'extermination. C'était quand même le travail qui importait le plus. C'était pas un vrai camp d'extermination comme on l'entend dans les camps juifs.
Il y a quand même beaucoup de gens qui ont été tués de façon très arbitraire et par pur sadisme.
Oui, tout à fait, bien sûr, puisqu'on je le lis dans mon livre. Forcément, des gens, il y avait tout le temps des SS qui étaient à l'affût de la moindre chose horrible à faire. C'est évident. Mais encore une fois, bon. Je pense qu'il fallait, je sais pas, il aurait fallu y être pour le savoir. C'était sûrement très difficile. Mon grand-père s'en est sorti.
Mais en même temps, on voit le roman. Il y a une certaine forme d'entraide et notamment le rôle d'un médecin qui n'est pas allemand et qui donne des conseils pour s'adapter, pour résister.
À Mauthausen, parce qu'il y avait donc des médecins français. Donc les médecins français, forcément, vous savez, c'est ce qui est tout à fait logique. À l'infirmerie, les médecins étaient bien vus forcément par les Allemands, et généralement ils étaient postés aux endroits bien précis dans l'infirmerie, et forcément les médecins français s'occupaient des Français, comme les Polonais s'occupaient des Polonais, et ainsi de suite. Donc il y avait une espèce d'entraide dans ce sens-là, dans le sens que lorsque un Français était à l'infirmerie, généralement, le médecin, s'il y avait un médecin français pas loin, il était aidé, on essayait de lui donner une ration de plus, etc., de l'aider, quoi. Ouais.
Il y a une chose qui m'a étonné aussi, c'est certains Espagnols qui étaient aussi dans le camp détestaient les Français du
Oui.
fait justement que quand ils sont venus en France pour échapper au totalitarisme
Oui.
espagnol de l'époque d'avant,
Oui,
hein, des années, fin des années 30,
oui.
ils ont été très très mal considérés en France.
Ouais. Donc les Espagnols avec le franquisme forcément fuyaient. Hein. Ce que les communistes donc ne comprenaient pas, c'est que seuls les communistes ont participé à la guerre, sont allés donc avec des commandos, sont allés participer à la guerre en Espagne. Et donc quand les communistes sont arrivés donc à Matosène, les Espagnols leur en voulaient. Alors forcément les Français disaient mais oui mais nous on vous a aidé, on est allés. Non quand nous sommes arrivés en France, on était mal reçus, on était logés dans des camps insalubres. Nous-mêmes on était obligés de creuser nos toilettes, on n'avait pas d'eau, on n'avait pas d'électricité. Vous avez reçu comme des chiens. Donc c'est un peu pour ça que les Espagnols en voulaient beaucoup aux Français. Hein, ouais. Et de toute façon, même pour les autres nationalités, c'était pareil. Hein.
Il y a un personnage qui se sort de tout, c'est le coiffeur.
Le coiffeur. Oui, vous avez bien lu. Oui. C'est vrai que les coiffeurs étaient bien vus. Mon grand-père et ses camarades étaient à Fontevraud et comme coiffeur, ils avaient un bagnard. Qui avait égorgé au rasoir, je ne sais plus, sa femme, peut-être l'amant de sa femme, etc. Et donc, quand ils devaient les raser, ils avaient tous une peur bleue, forcément, parce que le gars, il coupait à une vitesse extraordinaire, avec son rasoir, ils avaient tous peur de se faire trancher la gorge, quoi. Bon. Par contre, ça, c'est une petite anecdote. À Matosane, par contre, forcément, être coiffeur, c'était quelque chose d'intéressant parce qu'ils avaient leur petit coin dans le baraquement, hein, forcément. Et bon, c'était des petits chefs, quoi. Hein, bon, voilà. On a remarqué une chose, c'est que mon grand-père est revenu en 1945 avec un de ses camarades, René Souillé. Donc, un camarade qu'il a connu là-bas à Matouzen, hein, en 44, en 44. Et donc, il est revenu avec René Souillé. René Souillé, j'ai failli le voir, il avait 101 ans. Nous y sommes allés, il venait de mourir à 101 ans. Et on s'est aperçu qu'ils avaient en fait la même carrure. C'était des petits bonhommes, assez râblés. Et on s'est dit, tiens, c'est bizarre, parce que ces camarades, là, les camarades de grand-père qui sont décédés à Matosane, ils étaient tous grands, assez forts. Et c'est pas les plus forts et les plus grands qui ont résisté le mieux.
Comme vous le disiez, il est l'un des rares à être
Oui.
sorti, à être rentré en France.
Oui.
Donc on imagine que les Allemands, les nazis de l'époque, souhaitaient en faire disparaître le plus grand nombre.
Bah, c'est-à-dire que les communistes n'étaient pas très bien vus. Hein. Donc, en fait, c'était des espèces un genre à éliminer. Hein. Donc, oui, mais à éliminer par le travail principalement. Par contre, c'est vrai que comme vous dites, des exactions, il y en a eu beaucoup et que. Dans mon bouquin, je raconte quelques scènes où les sentinelles tuaient comme ça par pur plaisir, quoi. Bon, il y avait aussi certains SS qui le faisaient aussi, dont la Panthère Noire, célèbre moment connu, ou certains capots aussi, mais les capots aussi, qui pour sauver leur peau, tuaient leurs camarades, en fait. Hein,
Ce qui est également universel, c'est les conditions de détention qui sont évidemment déplorables.
Ouais. À Matouzen, évidemment, oui, bien sûr. tout ce que nous pouvons dire actuellement, nous, petits-enfants, ce qu'on peut raconter, ben, on ne peut rien raconter. Ce qu'on peut dire, c'est on peut simplement en témoigner de ce qu'on a lu. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'ils vivaient dans ce qu'on appelait, ils vivaient en sardine, l'un couché dans un sens, l'autre dans l'autre, donc tête bêche, hein, ou alors dans des lits superposés à 3 ou 4 par couche. Dans les infirmeries, je ne dis pas comment ça se passait, c'était quelque chose d'horrible. Hein. Avec les gens, vous pouvez vous imaginer des choses incroyables, des gens qui avaient de la dysenterie, qui se trouvaient sur les matelas du dessus et qui faisaient leur déjection sur ceux du dessous. C'était des choses qu'on n'imagine même pas. Bon, c'est tellement horrible qu'on ne peut pas imaginer.
Il y a aussi la rigueur de l'hiver qui fait que les gens succombent au froid et souvent sont même envoyés dehors faire des choses, même se faire doucher à l'eau froide pour être punis. Enfin, c'est des choses.
Oui, absolument. Ça s'est passé aussi. Maintenant, d'autres l'ont raconté, comme Bernadac, ou les gens qui veulent se documenter là-dessus peuvent le faire. Il y a un tas de livres qui racontent ce genre d'histoire. Quand un groupe arrive, généralement, la première chose, c'est d'éliminer les plus faibles. Parce qu'en fait, c'est un camp de travail, donc on veut éliminer les plus faibles. Et ce qui se passe, c'est que quand ils arrivent, même l'hiver, on leur fait prendre des douches glacées, on les met dehors en plein hiver, nus. Donc ils reçoivent la neige sur eux, ils sont traumatisés, ils tombent comme des mouches par le froid, par les coups. On leur fait descendre dans sous-sol, on leur donne une bonne douche d'eau qui leur semble bénéfique, elle est chaude à souhait, et puis d'un seul coup ils font monter, et puis on les laisse encore 2-3 heures sous le froid par moins 20, moins 15, moins 20 degrés, et bon, c'est des choses inimaginables, quoi. Bon, c'est même pas racontable.
Alors justement, ce n'est pas racontable, en même temps, on est dans une époque où des gens tentent de remettre en cause cet aspect historique des choses, et revoit l'histoire d'une manière révisionniste. Oui. Votre livre, il est là pour mettre des bornes.
Je ne suis pas là pour donner des leçons, je ne suis pas scientifique, je ne suis là que témoignant. J'ai récupéré des écrits de mon grand-père, je ne suis là que pour les retranscrire, et je ne veux pas rentrer dans une polémique. C'est vrai que le négationniste existe, mais donc nous devons faire la part des choses, et je pense que pour nous, ce qu'il faut, c'est croire à ce qui s'est passé et témoigner de ce que nos grands-pères ont pu vivre et continuer à croire que le monde sera meilleur demain, et puis voilà.
Donc ce livre, La baraque à l'épinette, c'est un livre de plus de 400 pages avec énormément de détails. Bien sûr, c'est peut-être une goutte d'eau dans ce qui est édité, mais ça se met en perspective avec d'autres ouvrages et des témoignages. Donc c'est très important pour la mémoire collective.
Écoutez, mon livre est une toute petite goutte d'eau. Mais peut-être qu'ajouter à d'autres petites gouttes d'eau, elle va former une grosse goutte, et que de grosse goutte en grosse goutte, nous allons former un petit lac, et peut-être, pourquoi pas, au bout d'un moment, un océan. Pour que plus jamais ça, justement. J'espère simplement que, avec l'Europe, nous allons vivre des grands moments de paix. Je le souhaite, utopiquement.
Bah finalement, c'est un peu ça. L'utopie fait vivre, mais en même temps, il faut l'aider aussi.
Voilà, l'utopie fait vivre, mais il faut l'aider. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Bon, maintenant, on verra par la suite comment ça va se passer. Ouais.
Voilà, donc, La baraque à l'épinette, oui, de Gérard Sévin, aux éditions
Édition Nord Avril.